C'est arrivé demain, Dominique Souchier sur Europe 1.
Lorsque les universités seront autonomes, est-ce qu'il faudra encore de grandes écoles ? Pierre Vels, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été directeur de l'École nationale des ponts et chaussées, vous avez été le président de Paris Tech qui regroupe 10 de nos écoles d'ingénieurs parmi les plus prestigieuses, à commencer par Polytechnique. Et c'est vous qui posez la question, faut-il sauver les grandes écoles ? Polytechnique, tiens, notre plus grande école, avec Normale Sup et l'ENA, Polytechnique est 208e au classement mondial de Shanghai. Et dans ce livre, vous dites, vous, eh ben voilà, ça, c'est vraiment pas bon.
Oui, je crois que le classement de Shanghai, on peut beaucoup discuter les détails, mais l'essentiel, c'est qu'il nous a réveillés, quoi. Il nous a fait comprendre que ces grandes écoles dont on est très très fiers, bon, parfois à juste titre, au fond, elles sont... Sont des espèces autochtones, quoi. C'est très adapté à l'écosystème français, mais dès qu'on franchit nos frontières, on connaît plus, quoi.
Là, on vient de parler de la Chine avec Henri Giscard d'Estaing. En Chine, il y a un livre où on explique comment faire entrer son enfant à Harvard. Il s'est vendu à combien d'exemplaires ?
Je crois 1 million de mémoire.
Non, 3 millions.
3 millions, oui, mais en Chine, les chiffres sont toujours.
Non, mais voilà, ça, c'est formidable, extraordinaire pour les Chinois, c'est surtout formidable, extraordinaire pour Harvard et désastreux pour nous. Hein.
Oui, en plus Harvard n'en a pas besoin parce que tous les étudiants chinois qui font des études supérieures connaissent Harvard, connaissent le MIT, connaissent Stanford. Et donc même, ils vont de toute façon
c'est
se
presser
vers la queue.
C'est pour ça qu'ils achètent le livre.
Oui, alors ils achètent le livre.
Alors que ponts et chaussées en chinois, juste en passant, en chinois ça se dit l'école des cantonniers.
Oui, hein. Alors c'est...
Il faudrait déjà changer le nom.
Oui, il faudrait peut-être changer les noms. L'école des mines aussi, vous savez, les mines, c'est en général, c'est pas le meilleur département dans les universités. Polytechnique, ça renvoie dans le monde anglo-saxon, dans le monde entier en fait, plutôt à IUT, technicien supérieur. Donc voilà, on a un problème de visibilité internationale qui est énorme.
Quel est le plus grand défaut de nos grandes écoles ?
Alors, je crois qu'il y en a, elles ont beaucoup de qualités aussi, hein, on va peut-être y revenir, mais elles ont au moins 2 grands défauts. Le premier, c'est d'être de plus en plus fermé aujourd'hui socialement. Hein. Le recrutement s'est resserré à un point extravagant vers les enfants des classes supérieures. Ça, c'est un vrai problème.
Vous donnez le chiffre.
Oui.
Un jeune issu d'un milieu supérieur a aujourd'hui 20 fois plus de chances d'entrer dans une grande école qu'un jeune issu d'un milieu populaire.
Oui, oui, la situation, c'est
Jacques
beaucoup...
Jacques Marseille le disait, au moins là-dessus, oui. Hier, au moins là-dessus, vous êtes d'accord.
Oui, oui, on est d'accord là-dessus. La situation s'est aggravée au cours des 15 dernières années. Pourquoi ? Parce que les écoles n'ont pas augmenté vraiment. Les écoles de premier rang, là, sont devenues de plus en plus sélectives. Et puis, la masse des étudiants a beaucoup gonflé, donc c'est devenu vraiment maintenant, on va vers une situation, si on ne fait rien, où dans 20 ans ou dans 30 ans, on aura 100% d'enfants de cadre supérieur, et j'ajoute de cadre supérieur parisien. Ça, c'est le premier problème. Il y en a un autre qui est peut-être moins visible, mais à mes yeux aussi important, c'est que nos écoles, non seulement elles ne sont pas connues internationalement, mais elles sont tellement axées sur la sélection, c'est des machines de sélection, hein, avant tout, c'est sélectionner, mais du coup, elles n'ont pas le rôle qu'elles devraient avoir dans l'innovation, vous voyez, aujourd'hui, les écoles c'est très important, bon, les universités c'est fondamental, mais les écoles c'est aussi très important, parce que la compétitivité du pays dépend beaucoup de ces étudiants, alors on a souvent les étudiants les plus brillants dans les grandes écoles. Or, ils sont dans des systèmes où ils ne participent pas comme ils devraient participer à l'effort d'innovation nationale, voyez.
Alors que ça devrait alimenter la recherche,
oui.
C'est absolument pas le cas.
Alors, absolument pas le cas, non, il y a de la recherche dans les écoles d'ingénieurs, plus que ce qu'on dit quelquefois, mais enfin, on n'est pas vraiment à l'échelle de ce qu'on pourrait et de ce qu'on devrait être, hein, compte tenu notamment du fait que les écoles sont très proches du monde de l'entreprise, plus que les universités, naturellement, puisque les part de nos dirigeants viennent des grandes écoles. Mais leur participation à la recherche, leur participation à l'innovation n'est pas ce qu'elle devrait être.
Notamment dans les écoles d'ingénieurs, ceux qui font des écoles d'ingénieurs, ensuite, ne sont pas ingénieurs.
Alors, une bonne partie d'entre eux, mais ça c'est pas nouveau si vous voulez, ça c'est peut-être aggravé dans la période récente. Les écoles d'ingénieurs sont des cabinets de recrutement, comme les autres grandes écoles d'ailleurs, sont des super cabinets de recrutement pour les grandes entreprises françaises, et c'est très bien, sélectionnent de très bons cas, les ingénieurs français à l'international sont très appréciés, ils sont en général très bons, mais leur contact avec la recherche, leur contact avec l'innovation est assez faible, et on a très peu quand même de gens, de jeunes à la sortie de ces grandes écoles qui vont créer des entreprises, créer des start-up, aller dans la haute technologie, comme c'est le cas dans les grandes universités américaines.
Votre réflexion tombe bien, parce que c'est en ce moment que sont publiés les résultats des concours aux grandes écoles. Vous dites qu'il n'y a rien de plus pathétique que de voir en fin de carrière des cadres qui continuent à expliquer qu'ils sont seulement ingénieurs des mines, et de raconter pour la millième fois qu'ils sont seulement ingénieurs des mines parce qu'ils avaient une migraine le jour de l'oral de Polytechnique. Vous dites ça, c'est pathétique.
Oui, c'est pathétique, mais ça, c'est le résultat de notre obsession française pour la sélection et les classements. Voilà, nous sommes un pays qui classe en micro-groupes. Ça n'a aucun sens dans le monde d'aujourd'hui. Même les entreprises françaises les plus pénétrées de cette culture font plus de différence entre un élève de Polytechnique, un élève des mines, des ponts, voilà. Ils regardent quand même comment ils travaillent, c'est-à-dire qu'au bout de quelques années, ces différences-là ont tendance à s'effacer. Mais on reste extraordinairement pénétré de cette manie de tout classer, voilà, et de j'ai été le concours général.
On fait beaucoup de maths dans les prépas. Vous dites ça, c'est plutôt bon, non?
Alors c'est plutôt bon en ce sens que vous savez aujourd'hui dans le monde industriel, dans le monde de l'économie de manière générale, les maths ont tout envahi, hein, plus que ce qu'on croit. La finance par exemple, c'est des maths. D'ailleurs les ingénieurs français se sont magnifiquement placés dans ce nouveau monde de la finance. Il y en a aujourd'hui beaucoup qui sont à Londres, à New York, voilà. Et donc là c'est une réussite. D'un autre côté, je pense qu'il faut balancer les choses parce qu'on en fait un peu trop aussi des maths. On sélectionne trop sur les maths. Il n'y a pas que les maths dans la vie. On peut avoir des... Vous savez, il n'y a pas une école d'ingénieurs au monde qui sélectionne autant sur les maths que les écoles françaises. Alors, c'est bien parce qu'il en faut, mais tout le monde ne va pas faire des maths à haut niveau pendant toute sa vie. On devrait avoir une conception plus large de ce que c'est que le bon étudiant.
Pierre Weitz, est-ce qu'il faut regrouper les grandes écoles? Parce que vous dites dans ce livre qu'il faut qu'on crée chez nous de véritables hubs de l'économie de croissance. C'est plutôt une expression pour le transport aérien, hein, des endroits où tout le monde se croise.
Oui, mais c'est
Est-ce
ça.
Qu'il faut pour ça regrouper les grandes écoles?
Oui, évidemment, c'est la réforme fondamentale qu'il faut faire, et elle devient absolument urgente.
Et pourquoi on la fait pas?
Déjà, pourquoi il faut la faire? Il faut la faire parce que d'abord pour être visible, mais c'est pas la seule raison. Mais c'est aussi pour avoir de la diversité, pour mettre les gens. Il faut que les écoles participent aux grandes aventures technologiques. Pourquoi on le fait pas? Parce qu'on est un pays conservateur, qu'on n'a pas encore compris que les grandes écoles pouvaient être et devaient être autre chose que des cabinets de recrutement, ça devait devenir des machines d'innovation. Tout le monde y gagnerait, les jeunes y gagneraient, l'économie française y gagnerait, les entreprises françaises y gagneraient. Et voilà, donc il faut absolument créer des grands ensembles. Vous savez, une école d'ingénieurs française aujourd'hui, elle est en moyenne 10 fois plus petite qu'un équivalent international. On ne peut pas continuer comme ça.
D'où le classement de Shanghai. Ah, non. Et nous, mauvaise place. Merci, Pierre Weitz.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de votre livre, « Faut-il sauver les grandes écoles ?» tout simplement, aux presses de Sciences Po, qui est une grande école.